Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Avec ou sans accord, les États-Unis vont se retirer de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid et renvoie la gestion du détroit d'Ormuz aux pays qui ont besoin de pétrole. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec la France dans le viseur. La flambée des prix du carburant rampe de lancement du plan d'électrification de l'économie voulu par Sébastien Lecornu. Il convoque ses ministres ce matin à Matignon. Et l'Italie, encore spectatrice de la Coupe du Monde après 2018 et 2022. Les Italiens ne seront toujours pas du voyage. Battu au tir au but en finale de barrage par la Bosnie.
Donald Trump va parler aux Américains la nuit prochaine.
Une adresse à la nation du président américain au sujet de la guerre au Moyen-Orient. Terminée dans quelques semaines, dit Donald Trump, qui annonce que les États-Unis vont quitter le conflit, qu'un accord soit trouvé ou non. C'est ce qu'il dit dans une dernière prise de parole hier soir.
Ce que je dois faire, c'est quitter l'Iran et je vais le faire très bientôt, je dirais peut-être dans 2 ou 3 semaines. Nous les avons renvoyés à l'âge de pierre pour très longtemps et ils ne sont plus en mesure de concevoir une arme nucléaire. Alors nous allons partir avec ou sans accord. Si la France ou d'autres pays veulent à nouveau du pétrole ou du gaz, eh bien ils n'ont qu'à passer par le détroit d'Ormuz. Ils pourront se débrouiller tout seuls. Je pense que ce sera très sûr, mais nous n'aurons rien à voir avec ça. Ce qui se passe au détroit d'Ormuz, ce ne sont pas nos affaires.
Et comme à chaque fois, les mots de Donald Trump ont un impact sur les marchés, rassurés ce matin, pas de quoi faire baisser les prix du carburant. Le sujet sera sur la table d'une réunion ce matin, 10h30 à Matignon. S'il n'est pas question d'aide supplémentaire ou de blocage des prix, Sébastien Lecornu a convié une trentaine de ministres, Romain Houg, une partie du gouvernement chargée d'arriver avec des solutions en vue du plan d'électrification de l'économie.
Oui, l'idée c'est d'être moins dépendant des énergies fossiles que l'on importe. Concrètement, il demande par exemple au ministre de l'économie, Roland Lescure, de mettre en place une offre de location de véhicules électriques à destination des professions qui utilisent beaucoup leur voiture au travail, comme les aides-soignants ou les infirmiers libéraux. Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, doit quant à lui plancher sur la sortie du gaz pour les logements neufs. Chaque ministre doit ainsi travailler sur des pistes à soumettre à Sébastien Lecornu d'ici la semaine prochaine. Ce grand plan d'électrification était prévu pour la fin du mois, mais le contexte économique presse le gouvernement à le présenter dans les tout prochains jours. Alors, comment le financer ? Eh bien, le Premier ministre souhaite utiliser les surplus des recettes fiscales générées par la hausse des prix du carburant ou encore mobiliser la Caisse des dépôts et le monde bancaire pour aider, par exemple, les boulangers quand ils doivent électrifier leur four.
Et en attendant, plus d'une station sur 10 est en rupture de gazole ou de sans-plomb 95 des stations Total Énergie victimes de leur succès en raison d'un prix plafonné jusqu'au 7 avril. La flambée des coûts de l'énergie qui fait une victime collatérale dans un contexte où il est difficile de trouver un repreneur. Le transporteur Ziegler est placé en liquidation sans poursuite d'activité, laissant 1500 salariés sur le carreau. Les transporteurs routiers qui sont toujours mobilisés ce matin, c'est notamment le cas du côté de Nice ou encore de Toulouse. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Une 10e personne interpellée hier soir après le saccage de la mairie de Fresnes, une partie de l'hôtel de ville et plusieurs commerces du centre-ville ont été dégradés par de jeunes individus dans la nuit de vendredi à samedi. 9 personnes avaient déjà été interpellées hier matin et on en sait plus, Constance Bostoen, sur le profil de ces gardés à vue.
Oui, selon une source proche du dossier, ce sont des adolescents âgés de 14 à 16 ans. Ils sont originaires de Fresnes et des alentours. Tous sont soupçonnés d'avoir, dans la nuit de vendredi à samedi, dégradé la mairie de la commune ainsi que des commerces voisins. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir une dizaine de personnes cagoulées s'approcher de la mairie et briser la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, ils dégradent le mobilier à coups de bâtons et de projectiles. Le nouveau maire Christophe Carlier évoque un préjudice colossal pour le fonctionnement de la commune. De son côté, le ministre de l'Intérieur s'est félicité de l'avancée de cette enquête. Une enquête qui se poursuit. Plusieurs personnes sont toujours recherchées par les autorités.
Des perquisitions hier à la mairie de Paris. Le parquet national financier cherche à savoir si l'attribution de la cérémonie des commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 a été respectée. Un chiffre, 4,76%. C'est le taux de record de l'absentéisme au travail l'an dernier. Étude AXA France qui nous révèle que les moins de 35 ans et les cadres sont davantage concernés par ces arrêts maladie. On en reparle dans le journal de 7h30.
7h05 et on en vient à cette cagnotte lancée pour aider le père d'un SDF retrouvé mort à Bordeaux.
L'hôpital de la ville lui réclame 3 800 euros pour avoir conservé pendant 4 mois le corps de son fils sans abri. Personne ne l'a prévenu. Il ne sait pas comment régler cette somme et dénonce les manquements des services de communication. Pierre Bourgès l'a rencontré pour RMC.
Quand Laurent Simon parle de son fils, il le fait sans détour. Oui, Ange était SDF et avait des problèmes d'addiction. Alors si le père n'avait pas de nouvelles pendant plusieurs mois, il ne s'inquiétait plus. Mais un matin, en juillet dernier, il reçoit un coup de fil.
J'ai eu un copain de Ange qui m'a dit qu'il était décédé.
Inquiet, l'homme tente de vérifier cette rumeur et appelle plusieurs mairies. L'une d'entre elles confirme que son fils est décédé depuis 4 mois et que son corps est conservé au CHU de Bordeaux. Alors pourquoi n'a-t-il pas été prévenu? Il n'a pas d'explication.
Moi, c'est que mon fils, ils l'ont laissé 4 mois dans un frigo, quoi. Là, le dernier déclébard, on lui fait pas ça, quoi. Alors qu'il m'aurait prévenu, tout de suite, moi, dès que j'ai su, j'ai fait ce qu'il fallait pour s'occuper de lui, quoi.
Aujourd'hui, le CHU de Bordeaux lui demande de payer près de 4000 euros pour la conservation du corps.
Normalement, j'ai pas à payer cette facture, parce que si les services de police avaient fait leur travail, en 15 jours, ils me retrouvaient, ils seraient pas restés 4 mois dans la morgue, quoi.
De son côté, l'hôpital rappelle que ce n'est pas à lui de rechercher les proches des victimes. Une cagnotte a été ouverte et cumule pour l'instant près de 250 euros.
La malédiction se poursuit en Italie.
Si vous êtes un Italien de 11 ans, vous n'avez jamais vu l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Et il faudra encore patienter 4 ans, au moins privé de mondial. Pour la 3e fois de rang, l'Italie a été battue en finale de barrage hier soir par la Bosnie au tir au but. Le désespoir pour toute une nation. Reportage de notre envoyé spécial dans un bar de Milan, Clément Brossard.
Pesté, juré avec les mains, les Italiens comme Alessandro l'auront beaucoup fait hier soir.
C'est un péché. Ils pensaient passer, mais la vérité, c'est qu'on a une équipe avec des joueurs faibles et bien trop jeunes. On a fini avec 4 joueurs de 20 ans. Ils étaient terrorisés. On a joué avec la peur, mais que voulez-vous qu'on fasse avec ça? Ce n'est pas possible.
À 58 ans, Ricardo s'inquiète, lui, pour la jeunesse italienne.
J'ai connu deux sacres en 82 et 2006. Quand je pense que les jeunes de 16 ans n'ont jamais vu jouer l'Italie au Mondial, ça me rend fou, ce n'est pas possible. C'est la pire période du football italien.
Comme en 2018 et 2022, Roberto ne verra pas sa squadra azzurra disputer un mondial difficile à digérer.
C'est un cauchemar, c'est la 3e fois de suite. Je veux bien pardonner, mais j'ai 23 ans et le dernier mondial que j'ai vu date de plus de 10 ans. Si on pardonne encore, ce sera la même chose la prochaine fois. Il faut tout changer jusqu'au président de la fédération, Gravina.
Dans l'espoir d'enfin retrouver la joie d'une Coupe du Monde disputée, mais il faudra, quoi qu'il arrive, encore attendre 4 ans.
La Bosnie qui décroche donc son billet avec la Suède, la Turquie et la République tchèque. Et on connaît ce matin le nom du dernier adversaire des Bleus, l'Irak, 48e et dernière nation à se qualifier cette nuit face à la Bolivie, 2-1. Le match vient de se terminer. La Norvège et le Sénégal seront les deux autres pays de ce groupe I.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et on en parlait justement dans le journal de Thibault à l'instant. Le Premier ministre annonce un grand plan d'électrification. C'est sa réponse à l'explosion des prix des carburants. Des locations de véhicules électriques pour les infirmiers libéraux ou les aides-soignantes. Des prêts pour les boulangers qui doivent électrifier leurs fours. Des aides pour le secteur de la pêche. Bonjour Nicolas Goldberg.
Bonjour.
Vous êtes expert énergie. Cette électrification, il était temps. C'est la seule direction possible. Voilà votre parti pris. Oui. Vous nous le dites dans un instant, mais je vous attend aussi vous, au 32-16, vous souffrez de ces prix du carburant, de ces prix des hydrocarbures. Est-ce que l'électrification, c'est la solution? Je vous attends au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous êtes bien sur RMC. Et si la solution, c'était tout simplement l'électricité? Face à l'augmentation des prix du carburant, le gouvernement réagit enfin. Alors, pas par une baisse des taxes, non, mais par un plan d'accélération de l'électrification du pays. On l'a appris au milieu de la nuit. Sébastien Lecornu laisse 8 jours à ses ministres pour des propositions concrètes. Bonjour Nicolas Goldberg.
Bonjour.
Vous êtes expert énergie chez Columbus Consulting. Cette électrification, il était temps. C'est la seule direction possible. Voilà votre parti pris ce matin. Alors, quand même, première question. On découvre au milieu de la nuit, par ces déclarations du gouvernement, qu'il y a un surplus de taxes. Ils disent qu'ils vont utiliser les bénéfices des taxes sur les carburants pour pouvoir faire des aides pour l'électrification. Mais je comprends pas, ça fait 3 semaines qu'on nous dit qu'il n'y a pas de surplus.
C'est effectivement surprenant. Ça ressemble quand même à une justification d'une mobilisation d'une poche budgétaire, parce qu'on est quand même un pays avec 5% de déficit. Hein. Donc pouvez mettre en place des aides. Voilà, vous pouvez mettre en place des aides, vous pouvez financer des choses, mais il faut le justifier un peu. il y a pas de surplus de taxes. C'est-à-dire que il y a une baisse des volumes de consommer d'essence parce qu'il y a une hausse des prix. Donc, il n'y a pas de surplus de taxes. Par contre, c'est nécessaire de mobiliser des enveloppes budgétaires pour électrifier parce que, comme vous l'avez dit, c'est le seul horizon possible.
Et je précise d'ailleurs que le patron d'Intermarché que je recevais il y a quelques jours disait qu'à la pompe, ils le voyaient, eux, hein, ils sont à moins 15, moins 20% en volume d'achat, effectivement, là, du côté des particuliers et de ceux qui peuvent tenter de s'en passer. Cet argent, ou en tout cas des aides, vont être ciblés pour accélérer l'électrification du pays. L'idée, c'est ce que dit le gouvernement, c'est d'être moins dépendant des hydrocarbures. Concrètement, comment on peut faire pour électrifier davantage? Quels sont les secteurs sur lesquels il pourrait y avoir une vraie efficacité?
Le secteur dans lequel c'est le plus efficace et c'est le plus économique, c'est les transports. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est mûr. Vous avez une offre d'occasion de véhicules électriques et ça, c'est très important pour les particuliers qui achètent peu de véhicules neufs. Et surtout, c'est plus économique. Vous économisez des centaines d'euros à utiliser un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique. Alors, il y a quelques freins. C'est de l'argent avancé, hein, comme quand vous changez de voiture à chaque fois. Il y a un usage à revoir. Si vous êtes en maison individuelle, c'est facile de recharger son véhicule électrique. Si vous êtes en logement collectif, il faut avoir accès à un parking. Il y a des bornes électriques dans la voirie. Il y a certaines stations-service qui commencent à intégrer des bornes de recharge, mais c'est un petit changement psychologique à faire. Hein.
Et d'ailleurs, c'est là où c'est le plus efficace. Je poserai la question à 7h40 au ministre du Logement qui sera dans ce studio, mon invité, précisément aussi de ces questions-là, c'est-à-dire passer du gaz à l'électrique dans les logements. Déjà, ça va être compliqué. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir vraiment des recharges dans les parkings collectifs? Je voudrais d'abord qu'on accueille Loïc, qui est chauffeur poids lourd et qui nous appelle de Narbonne, dans l'Aude. Bonjour Loïc.
Bonjour Apolline, bonjour
l'équipe.
Comment
ça va Loïc? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ce serait possible pour vous de passer à l'électrique et est-ce que c'est souhaitable?
Je suis en train de faire passer ma femme à l'électrique, qui est auxiliaire de vie, donc qui a un petit salaire de 900 euros par mois et qui paye plus de 200 euros d'essence par mois pour travailler. Donc le calcul est vite fait, hein. Je ne vais pas citer de marque, mais vous avez certaines marques qui font des véhicules d'occasion en LOA pour 120 euros par mois. Et bien juste avec la LOA, on est gagnant sur le prix du carburant.
Vous seriez déjà gagnant sur le prix du carburant, c'est exactement ce que nous disait précisément Nicolas Goldberg là-dessus. Hein.
Oui, tout à fait. Surtout auxiliaire de vie, vous savez, c'est un métier qui roule beaucoup. C'est comme les VTC, c'est comme d'autres professions. Donc en fait, plus vous roulez, plus l'investissement est amorti rapidement. Et justement, sur le LOA, c'est une belle solution. Il y avait un leasing
LOA,
social.
LOA, vous pouvez repréciser exactement.
C'est un leasing social, c'est-à-dire que vous louez le véhicule électrique et ensuite, vous avez une option d'achat à la fin de la location. Et ça avait déjà été mis en place, il y avait un leasing social électrique pour les ménages précaires. Là, la solution, c'est effectivement de l'étendre aux professions grand rouleur.
Hein. Loïc, vous êtes vous-même routier. J'imagine évidemment que le camion, il roule au diesel.
Le camion roule au diesel. C'est pas évident. Nous faisons des économies d'énergie dans l'entreprise, une politique d'éco-conduite depuis des années.
Ouais.
On n'a pas le choix qu'autrement de rouler au gasoil. On a des camions électriques qui ne font pas assez de kilomètres, malheureusement, pour ce que nous on fait. Mais ça existe également, cette solution. Sachant qu'en plus, on est dans le pays de l'atome, on a tout ce qu'il faut pour réussir l'électricité. Peut-être que la politique actuelle n'est pas la bonne avec le prix de l'électricité à un prix européen. Ça, c'est quelque chose à voir dans le changement. Mais on va arriver à un moment où il y aura plus de pétrole. Profitons d'être le pays de l'atome pour aller de l'avant et penser aux générations futures.
Et je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Loïc. C'est que c'est vrai que ça réveille aussi une sorte de fierté nationale de se dire, bon, allez, on sait faire quand même. C'est vrai qu'on sait faire l'électrique. On a été très bon. Alors, autre question malgré tout, le prix de l'électricité, parce que on en vient quand même toujours au nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que ce prix de l'électricité reste bas en France? Est-ce qu'aujourd'hui, les investissements qui ont été faits, on a quand même l'impression quand on regarde dans le rétroviseur que ça a fait un peu le yo-yo sur la politique énergétique de la France. Aujourd'hui, tout le monde presque est d'accord pour dire que c'était une excellente idée de réinvestir dans le nucléaire, mais c'était pas tout à fait le cas si on regarde 10 ans en arrière.
Effectivement, il y a eu quelques atermoiements. Et en fait, le parallèle avec le nucléaire, il est intéressant. Parce que vous savez, dans les années 70, quand il y a eu le premier choc pétrolier, qu'est-ce qui a été fait? On n'a pas baissé les taxes et balancé des chèques. On a fait le parc nucléaire. Et on a fait le parc nucléaire parce qu'à l'époque, la France produisait son électricité à partir de pétrole. Aujourd'hui, il faut faire la même chose, ce plan Messmer, pour l'électrification de la consommation. Donc là, l'idée, c'est de réinvestir dans le nucléaire, mais aussi dans les énergies renouvelables. Et justement, on aura cette abondance d'offres qui permet de garder les prix bas, sachant qu'un prix de l'électricité, c'est de l'électricité, mais c'est aussi du réseau et des taxes. Et c'est ça, les dépenses qu'il faut arriver à maîtriser et pas à
puisqu'on est sur cette question aussi du prix de l'électricité en France et de notre réseau, de notre parc. On est d'accord qu'au moment où on se parle, nos centrales, elles fonctionnent très bien. Rien à voir avec il y a quelques années. Il y a eu cet énorme blackout en Espagne. Les révélations récentes, visiblement, d'un certain nombre d'enquêtes montrent que la question, justement, de l'alternative, je ne sais pas très bien comment le dire, je ne suis pas une spécialiste d'électricité, mais je voudrais profiter de votre présence. Est-ce qu'il y a quand même des risques si on passe quasiment au tout électrique en France? Est-ce que c'est fiable quand on voit qu'en Espagne, ça a quand même à un moment été une catastrophe pour tout le pays?
Alors, il faut bien voir que la France, c'est un petit peu différent de l'Espagne. Hein. On a beaucoup de nucléaire et on en aura encore beaucoup. Donc tant mieux. On a aussi beaucoup d'hydraulique. Donc tant mieux aussi. Et surtout, pour faire simple, si effectivement on change un système centralisé avec des grosses centrales par un système décentralisé avec plus d'énergie renouvelable qui produisent en énergie continue, les règles doivent être différentes. En fait, pour faire simple, en Espagne, il y a eu des problèmes en cascade. Les énergies renouvelables sont pas les seuls coupables. Hein. Vous avez
Ça fait partie du package.
Effectivement.
Il y a eu un enchaînement, mais
les centrales électriques conventionnelles, y compris le nucléaire, ont été défaillantes en Espagne à ce moment-là. Donc, il faut inventer des nouvelles règles. C'est pas insurmontable. Il y a quand même eu beaucoup plus de blackouts dans l'histoire électrique mondiale à cause des centrales conventionnelles et des incidents de réseau qu'à cause des énergies renouvelable. Donc, on peut le faire. On peut l'inventer. Il faut inventer des nouvelles règles. Il faut se coordonner. Donc, c'est possible.
Et on aura toujours assez d'électricité. Et on le comprend bien, si au fond, de cette crise sort une forme d'électrification, de planification sur l'électricité, y compris pour tous les particuliers et professionnels,
ce sera bénéfique à long terme.
Ça sera bénéfique.
Les crises pétro-gazières sont amenées à se reproduire. Je suis désolé, c'est la deuxième en quatre ans. Il y en aura d'autres. Donc, le seul horizon souhaitable, c'est la fin des énergies fossiles, gaz et pétrole.
Merci beaucoup, Nicolas Goldberg, d'avoir réagi effectivement à cette nouvelle de la nuit. Je vous le rappelle, l'électrification qui va être donc poussée par le gouvernement comme réponse à cette crise des hydrocarbures. On y reviendra aussi à 7h40 dans 20 minutes. Mon invité, ce sera le ministre du Logement. Est-ce qu'il y aura des aides pour chacun, pour le collectif, mais aussi pour les logements particuliers, pour pouvoir justement basculer vers l'électrique? Je lui pose la question dans 20 minutes. En attendant, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, la nuit prochaine, 4 astronautes vont décoller pour la Lune, une vieille obsession de l'humanité.
Oui, il a fallu attendre 1969 pour que l'homme marche sur la Lune. Et pour l'occasion, le pape s'était même acheté un téléviseur en couleur pour suivre l'événement.
On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, le compte à rebours est lancé pour Artemis 2, c'est la nouvelle mission de la NASA. La nuit prochaine, 4 astronautes vont partir pour la Lune. Le décollage s'effectuera depuis la Floride aux États-Unis.
Oui, l'objectif, alors c'est juste de faire le tour de l'orbite lunaire. Hein. Pas de débarquement prévu, puis après ils reviennent. Mais c'est déjà un sacré challenge puisque ça fait 54 ans que l'homme n'a pas ni marché sur la Lune, ni d'ailleurs tourné autour de la Lune. C'est donc un test à très haut risque pour la NASA.
Comme quoi l'homme est toujours aussi obsédé par la Lune.
Et oui, ça fait longtemps. Même quand on ne savait rien de la Lune, à part que c'était une espèce de point lumineux dans le ciel, on lui attribuait des pouvoirs mystiques et magiques. Et le premier de ces pouvoirs, c'est que la Lune rendait fou. Elle rendait fou certaines personnes, surtout la pleine Lune. Au Moyen-Âge, on pensait que les cycles lunaires aggravaient la folie des démons. Par exemple, en Angleterre, des avocats ont même plaidé l'irresponsabilité de leurs clients pour des crimes commis pendant la pleine lune.
Forcément. Alors, quand est-ce qu'on peut voir la lune qu'on a pu commencer à voir cette lune d'un peu plus près?
Alors, en fait, ça commence assez tôt. C'est au tout début du XVIIe siècle. Et ça, on le doit à un homme aujourd'hui complètement oublié. Un Anglais qui s'appelait Thomas Harriot. C'était un mathématicien. Il avait bricolé une sorte de super longue vue. En gros, c'était un simple tube avec une lentille convexe au bout. Et avec ce truc, il va observer la face visible de la Lune. C'est lui qui réalisera les premiers schémas des cratères, des reliefs. Bref, un travail de précision impressionnant avec des outils très peu performants. C'était un tournant de l'histoire de la science.
Quand est-ce qu'on aura la première photo de la Lune?
Alors, presque deux siècles plus tard, hein, la première photo de la Lune, on la doit à un Américain, un jeune scientifique de 29 ans qui s'appelait John William Draper. Au mois de mars 1840, il grimpe sur le toit de son université à New York et il prend ce premier cliché historique.
Les Américains et les Russes vont ensuite se livrer à une vraie guerre de l'espace.
Mais oui, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se rendent coup pour coup. Les Soviétiques marquent le premier point, puisqu'en 1959, ils envoient la première sonde qui va atteindre la Lune. Ça s'appelait Luna 2. Mais la NASA rattrape son retard. En 1969, elle lance la mission Apollo 11. Après 3 jours de vol et 400 000 km parcourus, les premiers hommes débarquent sur la Lune. Pour l'occasion, le pape de l'époque, qui s'appelait Paul VI, s'était même acheté un téléviseur en couleur pour suivre l'événement. C'était assez exceptionnel.
Au total, combien d'hommes ont finalement vraiment marché sur la Lune?
Eh bien, il y en a 12. 12 à ce jour. Apolline, ils sont tous américains. D'ailleurs, dans cette nouvelle mission, il y a un Canadien parmi les astronautes. Le premier Canadien à faire partie d'une mission lunaire. Là encore, un événement. Artemis 2 est un enjeu énorme, puisque les Américains doivent prouver qu'ils sont encore capables de reproduire l'exploit, qu'ils sont à la hauteur de leur histoire.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Tout de suite, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
En régie, ils sont couchés de rire. Tu leur dis, on est sur la Lune, on va regarder la Lune, on va marcher sur la Lune, etc. Et voilà. Dès qu'on fait des allusions de fesses,
oh,
mort de rire.
Arnaud Demanche est avec nous, donc à 8h30, tout à l'heure, sur RMC BFM TV. Mon invité, ce sera le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, qui m'accorde sa première interview.
Arriver en vainqueur à la One Again, son et lumière, en costume doré, tout en paillettes, chaussures croco, cravate orange, le niçois. Il est prêt à fracasser Christian Estrosi pendant 20 minutes. C'est Éric de Nice. C'est pas Brice. Lui, il surfe sur la tendance sereine. Il prend Estrosi.
Et tu casses.
Ce qu'il l'a tué, hein. Ça a été un combat à mort contre Estrosi. Ciotti, on se méfie pas, mais vous savez, derrière le Marcel Pagnol format Pujadas, il y a un prédateur. On se dit, il est petit, mais il faut quand même faire attention, quoi. Les moustiques, ils tuent 900 000 personnes par an. Là, c'est Brutus qui tue César, Saint-Georges qui terrasse le dragon, Apo qui remplace Jean-Jacques Bourdin. Le combat à mort. Donc, c'est Rocky. Et c'est un sexe symbole en plus, hein, Éric Ciotti. C'est pareil, on dirait pas à première vue, mais pendant toute la campagne des municipales, Bruno Retailleau a refusé de choisir entre lui et Estrosi. Ciotti s'est fait draguer par la droite et par l'extrême droite. Les deux le voulaient. C'était l'île de la tentation. Il était au feu de camp.
Éric, j'ai une vidéo pour toi. Souhaites-tu la regarder ?
Oui, Delphine, je souhaite regarder cette vidéo.
C'est une vidéo de Bruno Retailleau, nu, qui te déclare sa flamme et qui semble quitter Christian, son motard d'amour.
Ah oui, mais je l'ai déjà vue 5 fois, celle-là, de vidéo. Il me l'a envoyée. Mais j'ai déjà les vidéos de Jordan Bardella. J'espère qu'on pourra tous s'unir un jour.
Il est donc devenu le maire de Nice. Là, il est dans les couloirs d'RMC pour offrir l'asile politique à notre auditeur d'hier qui a gagné 120 000 euros.
Ah ouais. Mais viens, Gérard, t'es âgé et t'as plein de sous. T'as toute ta place à Nice maintenant.
Il croise des jeunes intermittents de gauche dans les couloirs. Il fait...
pas des rétros.
Et il plaide pour la transformation de la droite qui, selon lui, doit s'allier avec le Rassemblement National. Il a par exemple proposé à David Lisnard de le rejoindre, le maire de Cannes, patron de Nouvelle Énergie. Nouvelle Énergie, le parti qui a un nom de boisson énergétique avec de la taurine dedans.
Avec Nouvelle Énergie, retrouve un max de virilité. Fini d'être un homme soja. Nouvelle Énergie, la boisson 100% testo, 100% biscotto. Une canette de Nouvelle Énergie et un Viagra, c'est comme David Lisnard et Éric Ciotti, c'est fait pour exciter les vieux. Vive la droite dure. Très dure, avec Nouvelle Énergie et Éric Ciotti à 8h30. À tout à l'heure. Gros bisous, hein.
Allez. Il est 7h24. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis notez-le à 7h50. La voix de droite sur RMC, ce sera Louis Sarkozy qui nous a retrouvés. Il arrive avec des propositions choc pour lutter contre les arrêts maladies abusifs. C'était aussi notre choix de la rédaction ce matin. N'hésitez pas vous aussi à réagir au 32-16. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Nouveau record d'absentéisme au travail. Le taux d'absence au plus haut niveau depuis 2019. Et ce sont notamment les jeunes qui multiplient les arrêts maladie. Peu importe un accord, peu importe la libération du détroit d'Hormuz, Donald Trump jette toutes ses exigences à la poubelle et annonce un retrait américain de l'Iran d'ici 2 à 3 semaines. Et en foot, c'est l'Irak qui vient compléter la poule des Bleus pour la Coupe du Monde. Qualification ce matin, sa première depuis 40 ans.
Une chaise vide au bureau, un collègue en moins dans votre équipe ce matin. L'absentéisme gagne du terrain.
Pour atteindre son plus haut niveau depuis 2019, avant la crise du Covid. 4,76%, c'est le taux d'absence en 2025. Et c'est ce que révèle une étude d'AXA France publiée hier. Étude qui pointe l'augmentation en flèche du nombre d'arrêts maladie chez les cadres et les moins de 35 ans à Najojar.
Au retour de leur pause déjeuner, Serena et Amati, 23 et 22 ans, salariés d'une agence de voyage, expliquent privilégier leur santé à leur travail.
Si je sens que psychologiquement ou physiquement, ça ne va pas, je n'ai aucun mal à mettre en arrêt de travail. Pour moi, en fait, l'argent, ça prime pas avant ma santé mentale. J'ai compté, en tout, je fais 10 arrêts maladie en 4 mois.
Moi, non, ça fait 3 mois que je travaille, j'en ai mis qu'un seul. Et bah c'est parce que j'étais malade.
Mais elles sentent bien un décalage dans leur rapport aux arrêts de travail avec leurs collègues plus âgés.
Ils vont le faire sans. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se permettent pas de mettre autant d'arrêts comme vous le faites. Surtout que nous, on en met un ou deux de 2 jours, on n'est pas remboursé. On est perdu. Ouais.
Honnêtement, j'ai déjà eu des moins de 200-300 euros dans ma paye, mais je m'en fous, pas inventé.
Derrière cette hausse des arrêts de travail, l'étude AXA pointe une santé mentale qui se dégrade chez les jeunes. C'est pourquoi le monde du travail doit s'adapter, selon Mathilde Forger, coach en reconversion professionnelle.
On soit plus libre de travailler un nombre d'heures dans la semaine, mais comme on l'entend, mais que les jeunes retrouvent des modèles, de retrouver des managers épanouis qui ont justement cet équilibre vie pro et perso.
Et chez les moins de 30 ans, un arrêt maladie longue durée sur 2 est désormais causé par des troubles psychologiques.
Et ce record d'absentéisme, il ulcère notre voix de droite, vous allez l'entendre. Il faut se remettre au boulot, voilà ce que viendra nous dire Louis Sarkozy. C'est dans 20 minutes sur RMC.
Cette idée va vous faire réagir aussi, celle de Sébastien Lecornu. Écoutez bien, servir de la flambée des prix à la pompe, du surplus de taxes que cela a provoqué pour mettre le paquet sur l'électrification du pays. Le chef de Matignon appelle ses ministres à mettre des propositions concrètes sur la table dès ce matin en réunion. On y reviendra en détail dans le journal de 8h. Alors que je vous rappelle ce chiffre que vous dévoile RMC ce matin, 12% des stations-service sont en rupture de gazole ou de samplon 95, pénurie causée en partie par le plafonnement des prix à 2,09€ le litre dans les stations Total Énergie, stations dans lesquelles se ruent les automobilistes. Mais cette flambée des prix va-t-elle durer maintenant que Donald Trump compte déserter le Moyen-Orient? Énième revirement du président américain. Alors qu'il martelait vouloir frapper l'Iran toujours plus fort, il a subitement annoncé hier que les États-Unis se retireraient dans les prochaines semaines. Antoine Lard à Washington pour RMC, un retrait en abandonnant toutes ses exigences.
Écoutez, on a le sentiment que Donald Trump cherche au plus vite une porte de sortie à la guerre. Il affirme que les États-Unis se retireront bientôt d'Iran, d'ici 2 à 3 semaines au plus tard. Son chef de la diplomatie, lui de son côté, assure que la ligne d'arrivée est en vue. Et pour accélérer les choses, Trump ne fixe plus vraiment de conditions pour arrêter les combats. Peu lui importe désormais que Téhéran signe ou non un accord. Ça n'a pas d'importance, dit-il. Quant au détroit d'Ormuz, il estime que ça n'est pas son problème. Il invite les pays qui en ont besoin, comme la France, à se débrouiller tout seul pour sécuriser le passage et aller chercher leur pétrole. Le scénario qui semble donc se dessiner, c'est un Donald Trump prêt à arrêter la guerre, même si le détroit reste fermé. Le président sait qu'il est dans une impasse sur cette question et il préfère manifestement s'en laver les mains, convaincu que les prix du pétrole et les prix à la pompe vont s'effondrer dès qu'il annoncera la fin des opérations militaires.
Réaction immédiate d'Israël, les opérations en Iran et au Liban ne sont pas terminées, dit son premier ministre Benjamin Netanyahou. Son armée assure ce matin avoir mené une vague de frappes d'ampleur à Téhéran et tente d'intercepter en ce moment même des missiles venus d'Iran. Il est 7h34 sur RMC. Paris demande l'extradition de Joël Soudron, baron français de la drogue arrêté au Panama hier. Il était recherché depuis 2018 et son évasion lors d'une permission en France. C'est donc la fin d'une cavale internationale qui aura duré 8 ans, Constance Bostoen.
Oui, c'est un homme aussi discret qu'influent qui vient d'être arrêté au Panama. Soupçonné d'être à la tête d'un vaste trafic de cocaïne entre les Antilles et l'Hexagone, Joël Soudron aurait investi l'argent de la drogue, des dizaines de millions d'euros, dans l'immobilier, l'événementiel ou encore un restaurant, le tout en Afrique, en utilisant des prête-noms. Son identité et son réseau, les enquêteurs les découvrent au détour d'une saisie, 231 kilos de cocaïne dans un conteneur dans le port du Havre en 2011. Au total, Joël Soudron aurait orchestré 20 à 30 convois de cocaïne sur plus de 20 ans. En 2016, il est interpellé une première fois au Mali dans le cadre d'une autre procédure, mais il s'évade 2 ans plus tard lors d'une permission de sortie. Depuis son arrestation lundi au Panama, une demande d'extradition est en cours car son procès est d'ores et déjà programmé devant le tribunal correctionnel de Paris le 11 juin prochain.
7h36 sur RMC. En foot, ça y est, les Bleus connaissent tous leurs adversaires en phase de groupe, donc à la Coupe du Monde.
Il manquait une équipe pour compléter leur poule. Ça se jouait au Mexique entre l'Irak et la Bolivie ce matin. Virginie Fulpin, ce sont les Irakiens qui se sont qualifiés de buzin.
Oui, l'Irak rejoint l'équipe de France, le Sénégal et la Norvège dans le groupe I de la Coupe du Monde. C'est un événement énorme pour cette équipe irakienne. Déjà, on sait à quel point sa préparation pour ce match de barrage a été perturbé à cause de la guerre en Iran et de ses répercussions dans toute la région. Évidemment, les joueurs ont longtemps été bloqués dans leur pays. Ils ont fini par arriver au Mexique il y a 10 jours après 72 heures de voyage. Et au bout, cette qualification presque miraculeuse, ça va seulement être la deuxième participation de l'Irak à une Coupe du Monde après celle de 1986 au Mexique. Les Lions de la Mésopotamie, c'est comme ça qu'on les surnomme, avaient été éliminés au premier tour à l'époque. 40 ans plus tard, les revoilà. France-Irak, ce sera le 22 juin à Philadelphie, le deuxième match des Bleus entre celui contre le Sénégal et celui face à la Norvège. L'Irak sera a priori l'adversaire le plus faible du groupe, 57e au classement FIFA. La France est première. Les joueurs de l'équipe nationale évoluent quasiment tous dans le championnat irakien, donc faut bien le dire, on les connaît assez peu. Mais avec ce qu'ils traversent, ça va décupler leur envie. Donc le maître mot pour les Bleus, ça reste la méfiance.
Virginie, Fulpin et le coup de tonnerre de ces barrages, c'est l'élimination hier soir de l'Italie par la Bosnie. Troisième fois consécutive que les Italiens vont manquer le mondial.
Et puis les courses, le quintet, c'est sur l'hippodrome d'Angers.
À départ à 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, c'est l'As Jolie Star et son outsider, le numéro 4, Isa Dumargas. L'As et le 4.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37. Les mauvais payeurs, bientôt assimilés à des squatteurs. C'est en tout cas ce que vous voulez, Vincent Jeanbrun. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de la Ville et du Logement. C'est la fin de la trêve hivernale ce matin. Le nombre d'expulsions a doublé en 10 ans, mais vous voulez aller plus loin pour protéger davantage les propriétaires. Vous nous direz comment dans un instant. Puis je vous interrogerai aussi sur cette annonce cette nuit, davantage d'électrification comme réponse à la crise des hydrocarbures. Est-ce que ça concerne aussi nos logements? Est-ce que vous allez faire des aides pour, je sais pas, les bornes électriques, le chauffage électrique? Vous nous le dites dans un instant. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez interpeller le ministre du Logement. Ça se passe sur le 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Sur RMC et sur RMC Story, les locataires mauvais payeurs, bientôt assimilés à des squatteurs. C'est l'une de vos propositions pour rassurer les propriétaires. Vincent Jeanbrun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de la Ville et du Logement. On va y venir dans un instant, mais je voudrais quand même vous poser une question sur ce qu'on a appris cette nuit. Une électrification accélérée du pays en réponse à cette crise et à cette dépendance des hydrocarbures. Le Premier ministre vous a, semble-t-il, demandé aux uns et aux autres de plancher sur la question et de voir ce que vous pouviez faire. Vous, question logement, quelles seraient les pistes que vous pourriez envisager?
Il faut faire de cette crise une opportunité. Cette crise, elle nous rappelle que on est très dépendant à des énergies fossiles. Ce n'est ni bon pour notre économie, ni bon pour notre souveraineté, ni bon pour la planète. Donc, occasion
prise. Trois bonnes raisons pour y passer.
Pour passer à l'électrification. Évidemment, chaque ministre, dans son volet de compétences, travaille à des propositions. Moi-même, en tant que ministre du Logement, on travaille à effectivement cibler toutes les aides qui sont aujourd'hui disponibles à la rénovation, par exemple, vers l'électrification. Ça veut dire aussi bien du chauffage électrique tel qu'on l'imagine classique, mais aussi remplacer sa chaudière à énergie fossile par ce qu'on appelle des pompes à chaleur RO, qui en fait vont chauffer de l'eau pour vos radiateurs historiques. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis, on a un énorme plan, et je veux les remercier, avec les bailleurs sociaux qui vont vraiment se mettre à la tâche pour que, d'ici très peu de temps, dans quelques années, on ait remplacé tous les systèmes de chauffage, soit par des chauffages urbains, soit par du chauffage électrique.
Remplacer tous les chauffages au gaz par de l'électrique?
Chez les bailleurs sociaux, c'est le plan qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec eux, et c'est l'incitation qu'on va essayer de porter pour tous nos concitoyens, pour qu'ils puissent avoir des systèmes plus vertueux, plus économiques.
Une question encore sur ce plan pour aller vers plus d'électrification. On le sent bien, un des freins, et on l'entend beaucoup avec nos auditeurs, pour passer à la voiture électrique, là pour le coup, c'est aussi la question des recharges.
Évidemment.
Or, dans le logement collectif, c'est parfois difficile de réussir à faire installer des bornes dans le parking. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ça?
En tout cas, on va travailler là-dessus, parce que vous avez raison, c'est un point crucial. Et donc, je vais évidemment réunir à la fois des représentants des maires, parce que vous savez, il y a aussi la capacité de se recharger dans l'espace public, et beaucoup de municipalités mettent en place des bornes. Et puis ce que vous évoquez à l'intérieur des logements, avec quelques difficultés, vous en doutez, sur comment on crée du compteur individuel, mais des solutions existent, et on va pousser des solutions dans les logements neufs et si possible dans les copropriétés anciennes.
Alors venons-en au logement, même si d'ici là, si des auditeurs nous appellent, évidemment, je voudrais pouvoir leur donner la parole, mais c'est la fin de la trêve hivernale depuis 6 heures ce matin. Assimiler les mauvais payeurs à des squatteurs pour faciliter les expulsions, c'est la solution à vos yeux?
La solution, c'est de faire en sorte que ceux qui rentrent illégalement dans un logement soient effectivement considérés comme des squatteurs. Ce n'est pas le cas, ça a d'ailleurs été rappelé par Louis Sarkozy sur votre antenne il y a quelques jours. Aujourd'hui, vous rentrez légalement en Airbnb par exemple, au bout de 48 heures, vous êtes considéré comme ayant un bail en bonne et due forme et donc une longue procédure d'expulsion. Ça, ce n'est plus possible, on doit considérer effectivement
que vous êtes un squatteur. Ça veut dire quoi ? Vous allez pouvoir intervenir tout de suite ?
Grâce au ministre de l'Intérieur qui présente un texte riposte, il y a un volet de lutte contre le squat. Quelqu'un qui est rentré, même s'il est rentré avec les clés, à partir du moment où il n'a pas eu de bail signé avec le propriétaire, il va être considéré sans droit ni titre et donc expulsable immédiatement. Ça, c'était vraiment incompréhensible pour nos concitoyens. Vous trouvez des clés par terre, vous rentrez dans un appartement, vous vous y maintenez 48 heures. Aujourd'hui, on ne peut plus vous considérer comme un squatteur. Ça sera changé demain. Ça,
c'était
une première
chose.
C'était
une sorte d'angle mort, en fait.
C'était clairement un angle mort de la loi de Guillaume Casébarian, mon prédécesseur, qui avait fait énormément avancer la cause de la lutte contre le squat. Il y avait ce petit angle mort. On va le changer et on va améliorer les choses. Et ensuite, vous avez la question des impayés. Et la question des impayés, on le voit, elle nécessite d'accompagner mieux les locataires fragiles. Et là-dessus, ma prédécesseur Valérie Létard avait commencé un plan d'accompagnement que je souhaite poursuivre. Et puis vous avez, parmi les personnes qui sont en difficulté pour payer leur loyer, des gens honnêtes, et de l'autre côté, des gens qui manipulent le système et qui très régulièrement vont jouer sur la trêve hivernale, vont être mauvais payeurs de manière régulière.
Et eux,
régulière.
Vous allez les cibler comment ?
Et là, l'idée, c'est de lancer une mission avec des économistes et des professionnels du droit pour pouvoir rapidement avoir des propositions législatives qui permettent de sécuriser les propriétaires, parce que dans notre pays, vous avez beaucoup de propriétaires extrêmement modestes qui comptent sur le petit loyer d'un petit appartement qu'ils ont mis toute une vie à acheter pour pouvoir compléter la retraite, pour pouvoir payer eux-mêmes leur niveau de vie qui, encore une fois, est bien souvent modeste. Eh bien, ces propriétaires, il faut aussi les protéger. Et pourquoi c'est important ? Parce que sinon, ils ne vont plus investir dans le logement. Au mieux, s'il y a un appartement, il va partir sur du meublé touristique type Airbnb, ou tout simplement, on ne met plus son économie dans le logement.
Ensuite, la question,
donc on ne produit plus
de
logement,
la crise
donc
du
on ne
loge
plus les gens. Donc c'est gagnant pour tout le monde de protéger
les petits propriétaires. Est-ce que vous êtes un bourreau de locataires ? L'expression bourreau des locataires, c'est l'association Droit au Logement qui l'a utilisée pour vous qualifier, vous Vincent Jeanbrun, après avoir appris que les expulsions avaient été multipliées par 2 en 10 ans.
Alors moi, je suis ministre depuis octobre, donc je ne me sens pas responsable de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Mais ceci dit, à la fois, il y a une responsabilité de la part du gouvernement et de tout ce pays de dire comment on accompagne les ménages les plus fragiles. On parle, et vous parlez beaucoup à cette antenne, de l'explosion des prix de l'énergie, par exemple. Bien sûr que ça fragilise des ménages. Il faut qu'on puisse être dans une logique d'accompagnement avant, justement, que soit qu'il soit trop tard et que les familles soient en impayés. Ça, c'est une chose. Pour le reste, il y a des droits en France, il faut les respecter et les propriétaires ont droit d'avoir l'usufruit du bien qu'ils ont mis en location et donc il faut trouver le point d'équilibre pour faire en sorte que et les locataires soient mieux accompagnés et les propriétaires
mieux protégés. Et justement, vous savez quoi, pendant que vous vous exprimiez, José nous a appelé au 3216 depuis Vitry-le-François dans la Marne. Bonjour José.
Oui, bonjour.
José, soyez le bienvenu, vous nous appelez, vous vouliez, je crois, interpeller le ministre parce que vous-même, vous êtes victime de squatteurs, c'est ça ?
Un squatteur, c'est pas vraiment un squatteur. En fait, j'ai un locataire, moi, depuis 5-6 ans.
Ouais.
À qui je loue une maison. Et là, ça fait 5-6 mois qu'il me paye plus les loyers, quoi.
Qui vous paye et plus le loyer?
Ah, plus du tout, non. Puis donc, j'étais le voir. On essaie de le contacter, il répond pas. Ou alors, quand j'ai réussi à le voir la semaine dernière, bon, c'est un peu fâché tous les deux, forcément.
Mmh. Et, il vous dit quoi?
Donc là, j'entamais. Bah, il dit que. Il n'a pas de boulot, que bon, pour lui c'est normal. Donc moi face à ça, je ne sais plus quoi faire parce que là, je me dis, là on a entamé une procédure avec mon épouse, on était voir un huissier.
Oui.
Mais l'huissier nous a dit que ça pouvait durer 2 ans.
Que ça
donc ça veut dire que ce mec, ouais, ça peut durer 2 ans. Donc ce mec-là, il va rester chez moi, ça se trouve, pendant 2 ans, sans payer de loyer.
Monsieur le ministre.
Bonjour d'abord. C'est évidemment inacceptable et incompréhensible parce que je ne sais pas si monsieur a un crédit à la banque, mais la banque, elle va continuer à prélever le propriétaire. Et vous risquez d'avoir un propriétaire qui se retrouve lui-même dans une situation financière extrêmement grave, interdit peut-être Banque de France parce qu'il a eu un locataire indélicat. 2 ans, c'est inentendable. C'est inentendable.
Il peut faire quoi ?
Alors, à ce stade, malheureusement, ce que lui a dit son avocat, c'est vrai, c'est qu'on a entre 2 ans et 3 ans de procédure. surtout avec des systèmes où vous avez des locataires qui se remettent à payer un ou deux mois, et ce qui va décaler encore plus la procédure. Donc il faut évidemment qu'on puisse durcir la loi, c'est pour ça que je lance cette mission, qui doit être une mission extrêmement sérieuse, parce qu'on ne rentre pas avec idéologie dans ce sujet-là. Il faut trouver le point d'équilibre entre la protection du locataire et...
José, vous touchiez combien de loyers? C'est combien le loyer?
Bah là, il doit être à 700, un peu plus de 700 euros de loyer pour une maison qui fait 140 mètres carrés.
700 euros, normalement, ils vous payent 700 euros par mois. Hein.
Et vous avez un crédit là-dessus?
100 euros.
Vous avez un crédit?
J'ai plus de crédit, mais bon, c'est l'argent quand même m'aider à subvenir aux besoins de mes enfants qui font des études. Parce que j'ai deux filles qui sont encore en études, donc moi, ça me permet de payer les loyers de mes enfants. Quoi.
Donc vous, c'est votre manière d'avoir mis de l'argent de côté aussi pour pouvoir effectivement payer les études de vos enfants. José, merci de votre témoignage. Courage à vous pour la procédure. Et merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à mes questions et à celles de José. Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Merci à vous. Il est 7h50 sur RMC. Vous mentionniez, tiens, notre voix de droite, Louis Sarkozy, il est là avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour.
Louis, ce matin, vous vous attaquez à l'explosion des arrêts maladie. Pour vous, il faut remettre les Français au boulot.
Oui, stop aux arrêts maladie frauduleux, stop aux jeunes qui ne vont pas bosser, qui regardent des séries Netflix. Il faut protéger la France qui travaille.
Je vois que Vincent Jeanbrun écoute vos chroniques avec attention. Je pense qu'il n'est pas tout à fait en désaccord.
Le ministre est un homme de goût.
C'est à vous dans un instant. Il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, c'est mercredi. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec un coup de gueule de Gilbert Montagnier.
Déjà pour le plaisir. Et puis ensuite, il vise directement la mairie de Paris. Écoutez bien. Dans un entretien au Figaro, le chanteur, aveugle depuis la naissance, rappelons-le, interpelle le nouveau maire sur un sujet très concret, l'accessibilité des trottoirs. Son message est simple. Manu, faut enlever les bornes. Voilà ce qu'il dit. Il parle des plots en métal initialement installés pour empêcher les voitures de se garer n'importe où, n'importe comment. Des plots qui sont devenus pour Gilbert Montagnier, et selon lui pour beaucoup de malvoyants, de véritables obstacles du quotidien. Le chanteur décrit ses poteaux contre lesquels les cannes et les corps viennent buter, dit-il, au risque de blesser les personnes aveugles ou malvoyantes que ces poteaux sont censés protéger. Alors lui, il dénonce une société mécanique qui fait payer aux plus fragiles son manque d'imagination, mais il propose des bornes virtuelles, des dispositifs sonores qui sanctionneraient les voitures plutôt que les tibias.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est mercredi, et comme tous les mercredis, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, le nombre d'arrêts maladie a bondi de 50% depuis 2019, c'est ce que révèle une étude de l'assureur AXA. C'est une hausse qui concerne surtout les moins de 35 ans et les cadres. Le Premier ministre Sébastien Lecornu évoque une dérive, je cite, très préoccupante. Il prépare, dit-il, des mesures qui seront annoncées dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
Apolline, c'est une abdication. C'est plus de 23 jours d'arrêt par an et par salarié en moyenne. Précisément au moment de notre histoire, il faut travailler de plus en plus. Ce que révèle ce rapport AXA, c'est l'autopsie du mérite. C'est la grande obsession française, la peur du travail. Il faut une thérapie de choc pour les salariés. Tout arrêt jugé frauduleux, surtout en cas de récidive, doit devenir un motif de licenciement pour faute grave.
Et pour les médecins, parce que c'est quand même eux qui les signent, ces arrêts.
Alors, très, très juste. D'abord, exiger, comme certains le souhaitent au gouvernement, un deuxième avis pour les arrêts de longue durée. Que ça soit fini, enfin, le copinage. Ensuite, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Si un médecin prescrit, par exemple, 30% d'arrêt de plus que la moyenne, cela doit déclencher automatiquement une inspection. Enfin, tout arrêt frauduleux doit entraîner le remboursement personnel par le médecin des indemnités versées aux salariés. Je vous garantis qu'avec ça, les abus disparaîtront très vite.
Oui, là, ce serait quand même assez radical. Donc, on supprime la sécurité sociale, en fait. On laisse les gens s'effondrer au travail.
Cher Apolline, non. On revient au principe de réalité. Un jour de carence, non. 3, 4, 5. L'absence doit avoir un coût. Et surtout dans la fonction publique. La solidarité doit être réservée aux vrais drames, maladies graves, accidents de la vie. Et pas aux coups de fatigue du lundi matin. La question en vérité est assez simple. Est-il moral de léguer à nos enfants une dette abyssale parce que nous n'avons pas eu le courage de dire à un cadre de 40 ans que sa fatigue n'est pas une pathologie nationale?
Vous entendez ce que disent ces jeunes. Ils dénoncent, je cite, des comportements toxiques de managers autoritaires, un manque de sens. Est-ce que le problème vient pas aussi du management?
Ah, et bien sûr. Et demain, quoi? L'ouvrier bâtisseur de Notre-Dame qui arrête le chantier pour management toxique? Jeanne d'Arc qui rend les armes parce qu'elle a été mégenrée? Les grognards de Napoléon Bonaparte qui refusent de se battre à Austerlitz pour surcharge mentale? Mais à quoi s'attendent les gens?
Enfin, on vit quand même plus au Moyen-Âge.
Oui, précisément.
Au temps de Napoléon.
Précisément. Nous vivons à l'époque la plus paisible de l'histoire de l'humanité. Le droit du travailleur n'a jamais été aussi protecteur. Et pourtant, au moindre conflit, tout devient traumatisme. Malgré des décennies de progrès sociaux, les arrêts maladie explosent et la France ne parvient plus à financer son modèle, faute de travail. Il faut le dire avec clarté. Le travail, l'effort, l'inconfort, c'est la vie, c'est la norme, c'est la condition même de la richesse, du succès et au fond, de la survie nationale.
Alors, le gouvernement parle de dérives coûteuses, il veut renforcer les contrôles. Ça va dans le bon sens pour vous?
Oui, mais le problème est surtout un de culture et un d'éducation. S'il faut contrôler, c'est qu'on a déjà créé un système où l'irresponsabilité est subventionnée. Dans un système sain, chacun assume. Est-ce cela vraiment l'ambition de la jeunesse française en 2026? Regardez des séries Netflix pendant que le reste du monde travaille. Et si vous avez véritablement un problème avec votre patron, démissionnez, allez ailleurs.
Vous parlez de la jeunesse, le phénomène il touche aussi les cadres, parfois jusqu'à 55 ans, des gens qui craquent sous la pression.
Oui, ce n'est pas vraiment de la dureté, vous savez ce que je propose, c'est plus de la lucidité. Ces cadres découvrent la réalité, un monde ouvert, concurrentiel, exigeant. La Startup Nation, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est une arène. On ne peut pas vouloir le confort du socialisme et les dividendes du capitalisme. Cette contradiction, cette schizophrénie française, c'est ça d'abord qui mène au burn-out.
Louis Sarkozy, la voix de droite, qui lance donc le débat ce matin. On se retrouve lundi à la même heure.
Si je ne suis pas en arrêt maladie d'ici
oui.
là.
Oui, je compte sur vous. J'ai cru comprendre que l'inconfort,
il n'y a pas
le
de
réveil.
Même sans voix.
Voilà. Demain, place à la voix de gauche. On alterne tous les jours et demain, ce sera donc Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h sur RMC. À la une, cette réunion, on vient de l'apprendre, réunion des ministres à 10h30 tout à l'heure, convoquée à Matignon pour répondre à la crise des hydrocarbures par une électrification accélérée. Côté météo, Géraldine nous le dira, il y a encore beaucoup de nuages et il fait encore frais. Et puis juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel Lechypre. Emmanuel, on revient sur cette annonce donc du milieu de la nuit du Premier ministre qui répond peut-être enfin à la crise des carburants.
Mais oui, le gouvernement reste fidèle à sa stratégie, la nouvelle stratégie, le quoi qu'il n'en coûte pas. Voilà. Et quoi pourtant, qu'il n'en coûte pas. Y aurait des surplus budgétaires à redistribuer. Donc combien, comment, je vous dis tout.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.